Votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Sébastien Krebs. Vous êtes entouré des grandes voix jusqu'à 19h avec ce soir Laetitia Krupa, spécialiste de communication politique, Charles Villeneuve et David Doucan, chef du service politique d'Europe 1. Et vous pouvez interpeller les grandes voix, ça se passe au 39-21.
On va parler d'Emmanuel Macron dans un instant, qui fait des bains de foule lors de ses séjours privés à Honfleur et qu'on voit beaucoup en ce moment. Mais je voudrais qu'on commence d'abord par l'assurance chômage qui entre en vigueur aujourd'hui. Durcissement des règles et durcissement donc des règles pour toucher ces allocations, avec un premier volet, un deuxième volet qui arrivera en avril, 4 milliards d'économies, il y a des gagnants, il y a des perdants. Alors évidemment, le gouvernement insiste sur les gagnants, mais est-ce qu'il n'y a pas plus de perdants finalement? Est-ce que vous trouvez cette réforme équilibrée? Qui veut commencer?
On peut vous répondre de manière très précise, puisque les estimations pour les gagnants, ce serait de pouvoir accéder à l'indemnité chômage en démissionnant. C'était l'une des promesses cardinales d'Emmanuel Macron. Les estimations de l'UNEDIC, c'est entre 17 000 et 30 000 personnes. Voilà. Donc là, vous avez déjà une appréciation du nombre de gagnants sur cette mesure de l'accession à l'indemnité chômage pour les démissionnaires. C'est tellement une usine à gaz pour y accéder, il faut avoir un projet professionnel, créer une entreprise, en reprendre une, avoir une formation, qu'il se dit au max 30 000 personnes chaque année. Le durcissement d'accès aux indemnités, c'est 850 000 personnes qui vont être touchées là dès demain. Bon. Donc vous l'avez votre réponse. Les données statistiques, ce sont celles-ci.
Voilà, c'est très clair. Donc c'est une réforme dure.
Moi, ce qui me frappe, c'est vrai, c'est une réforme dure. Ce qui me frappe, c'est le en même temps qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il a décidé d'écouter beaucoup plus les Français. Il a annoncé que la deuxième partie de son quinquennat serait plus sociale. Et le tournant social qu'il prend, c'est un durcissement de l'assurance chômage, parce que c'est un durcissement.
Ah oui, des conditions d'accès, oui.
Et donc, c'est ça qui ne colle pas, si vous voulez. C'est le en même temps, puisqu'il écoute, il est à l'écoute. Il est non seulement à l'écoute, mais il prend de plus en plus la parole. On va en parler dans quelques instants. C'est aussi assez intéressant, encore que, il y a plusieurs explications. Mais là, justement, c'est ce virage extrêmement dur, quasi pas à épingle à cheveux, dans le sens du durcissement qui me trouble. Je me demande s'il ne s'est pas mis sur l'étagère du brouillard.
Ça veut dire que
c'est vrai
risqué
aussi sur l'ensemble des choses, de toutes les réformes. On a l'impression qu'il ne tient plus le cap comme il le tenait avant.
Enfin, ça,
ce virage
annoncé,
social, donc, on ne l'a pas vu, Laetitia Krupa.
Oui, mais enfin, elle était annoncée, cette réforme du chômage, donc ce n'est pas non plus une surprise. Alors, en fait, en termes d'image, effectivement, il n'arrive pas à se défaire de ce sparadrap du président
des
riches.
Ce n'est pas ça, la surprise. La surprise, c'est qu'il vous dit que ce sera la deuxième partie plus sociale. Pour moi, c'est ça, la surprise.
Oui, d'accord, mais enfin, cette réforme de l'assurance chômage était prévue pour maintenant. Alors, ça veut dire quoi? Il aurait dû attendre et puis se dire, deux mois plus tard,
je vais faire
mon tournant social.
Je ne sais pas, mais moi, je n'aurais pas utilisé les mêmes
expressions. En tout cas, c'est vrai qu'il touche les plus vulnérables. Alors, forcément, le Macron, président des riches, il est là. Encore, toujours, dans ce qu'on peut lui faire en reproche et surtout dans ce qu'on lui demande toujours, cette justice sociale. Pour l'instant, ce n'est pas un symbole, mais en même temps, il faudrait qu'on en sorte un petit peu de ça en même temps,
oui.
Ça ne concerne pas tous les Français, cette réforme. Et bien que 850 000 soient touchés, ce n'est pas l'ensemble des Français. Et il compte là-dessus, Emmanuel Macron. Finalement, c'est l'image du réformiste qu'il privilégie sur cette réforme chômage, parce que sans la réforme, Emmanuel Macron ne tient plus. C'est-à-dire que sans cet habit de réformiste, il n'y a plus d'Emmanuel Macron. Mmh. C'était la promesse de sa campagne. Et comme ça ne concerne pas tous les Français, je pense, malgré tout, que finalement ça va passer.
Et donc c'est un président qui parle aux Français, mais qui travaille.
Je ne suis pas sûr que ça ne concerne pas tous les Français. Je vois ce que vous voulez dire. Vous voulez dire ça concerne les gens qui sont au chômage.
Exactement.
Oui, mais...
Faites gaffe, parce que
très nombreux,
il est perspicace.
De très nombreux Français ont l'inquiétude de tomber au chômage.
Sûr,
donc, ça concerne tous les Français. Au même titre que la réforme des retraites, qui va être un énorme morceau.
Bien
et
sûr.
Sur la partie président des riches, l'assurance chômage, la réforme, les décrets qui ont été pris il y a quelques mois et qui entrent en vigueur aujourd'hui et en avril dans un deuxième temps, viennent justement contrecarrer un petit peu cette image de président des riches, puisque vous le savez, les indemnités chômage pour ceux qui ont des hauts salaires, alors les hauts salaires c'est au-dessus de 4 500 euros, eh bien, au bout de 7 mois, dégressivité. Et ça, c'est l'électorat d'Emmanuel Macron. C'est les gens qui ont voté au premier tour, 24% du premier tour en 2017, ce sont nos concitoyens qui sont intégrés, qui sont effectivement en CDI, qui sont des cadres, et là, c'est eux qui le tapent. Donc, sur cet aspect-là, L'image de président des riches, moi je dirais personnellement, ouais, c'est ma lecture, est au contraire érodée.
Et là on met le doigt sur ce qui était un tabou, la dégressivité des allocations, oui, chômage. On poursuit nos échanges dans un instant avec également les auditeurs d'Europe 1 au 39-21.
Et vous pouvez interpeller les grandes voix, n'hésitez pas, ça se passe dès maintenant au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs, entouré des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Laetitia Krupa, spécialiste de communication politique, Charles Villeneuve et David Doucan, le chef du service politique d'Europe 1, et toutes vos réactions en direct au 39-21.
Et nous parlons ce soir de l'entrée en vigueur du durcissement des règles de l'assurance chômage avec les grandes voix et également avec vous au 39-21. Et je salue Christian qui a composé le 39-21. Bonsoir Christian.
Oui, bonsoir Sébastien, bonsoir les grandes voix.
Merci de nous rejoindre ce soir. Vous êtes... un ancien indépendant, vous avez travaillé comme indépendant. À l'époque, vous n'aviez pas eu le droit à aucune indemnisation. Ça fait partie des changements de la réforme, d'ailleurs.
Tout à fait. J'ai été indépendant. Suite à ça, malheureusement, j'ai une pathologie grave qui fait que je suis reconnu invalide. Je suis senior, en plus, donc j'ai 54 ans. J'ai dû jouer un peu avec ma santé pour et tomber sur une entreprise bienveillante qui a accepté que je travaille en télétravail pour avoir les fameux 4 mois, les fameux 600 heures. Donc aujourd'hui, je suis indemnisé, mais j'ai en face de moi un marché du travail qui est, en dépit de discours lénifiants, un peu fermé pour les seniors et pour les seniors qui ont un niveau de compétence important. Et moi, je trouve que la réforme, elle est brutale, elle est violente, elle va faire des nouveaux pauvres et puis elle va favoriser l'ubérisation parce qu'à un moment, des gens comme moi n'auront plus d'autre alternative que de se mettre à faire des petits boulots.
On entend votre inquiétude. Merci beaucoup Christian pour votre témoignage au 39-21, Laetitia Krupa.
Et c'est pour des témoignages comme ceux-là qui se multiplient qu'il me semble qu'une communication gouvernementale un peu plus fournie et pédagogique, puisque c'est la pédagogie dont il nous rabâche les oreilles depuis son arrivée à l'Élysée, le gouvernement, l'exécutif. Et là, on a une Muriel Pénicaud qui prend la parole il y a une semaine sur une radio, hier sur une chaîne info, aujourd'hui dans un journal de PQR. Mais en fait, c'est pas fourni, on n'a pas cette explication de texte de pourquoi cette réforme aussi radicale et aussi dure, aussi difficile.
Il n'y a pas eu de pédagogie ? On a parlé de plein d'autres sujets ces dernières semaines, on en a presque pas parlé jusqu'à ce que ça entre en vigueur.
D'abord, l'explique. Non. C'est pas vrai. Il y a eu un débat public fourni au moment où
les mesures ont été votées.
Ça n'a pas été voté puisque ça a été pris par décret. Mais cette réforme de l'assurance chômage a été confiée aux partenaires sociaux. Et c'est parce qu'ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord que le gouvernement a repris la main là-dessus. C'est quand même replacer les choses. Ce qui, d'ailleurs, rend aujourd'hui les cris et les cris d'alerte et les cris d'alarme de la CFDT en particulier, difficilement audibles. Alors ils disent, ils nous avaient mis un cadre, un carcan qui fait qu'on ne pouvait pas se mettre d'accord. La réalité, quelle est-elle? Quand vous dites, Muriel Pénicaud n'a pas suffisamment fait la pédagogie. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une dimension politique à cette réforme qui est assurée. C'est une réforme de droite. Voilà. C'est l'idée qui consiste à dire... Charles, tu es d'accord avec moi? Ça consiste à dire...
Oui, mais enfin, il faut l'expliquer.
Alors, regardez.
Droite-gauche, enfin,
Ils l'ont dit. L'idée, c'est quoi? C'est de dire le système d'indemnisation chômage en France est trop généreux et par conséquent, les gens se complaisent dans un confort qui est celui du chômage et donc ne cherchent pas
de travail. Il est parfois plus intéressant que de travailler. C'est des cas qui sont souvent cités.
Et on donne souvent en exemple le fait qu'il y a 300 000 emplois non fournis, non pourvus en France, alors qu'il y a 3 millions de chômeurs. Bon. Donc,
Je ne prends pas parti, c'est pas parce que c'est ça la question. J'explique
le raisonnement. Ce raisonnement-là, on l'a entendu dans la bouche des candidats de droite depuis 20 ans. Donc voilà, ils mettent en place une réforme qui répond aux attentes d'un électorat qui a voté pour eux, au deuxième tour, et qui a voté pour eux aux européennes. Quand vous voyez l'état de la liste de François-Xavier Bellamy à 8%.
Dans le socle, notamment aujourd'hui, et plutôt dans ce sens-là, dans cet électorat-là. Mais c'est vrai que c'était aux partenaires sociaux, dans un premier temps, c'était le premier round, si j'ose dire, à expliquer, et ça n'a pas été fait, et on a bien senti le trouble, si vous voulez. C'est à partir de là qu'ils ont repris la main avec l'explication qui est peut-être un peu tardive, mais qui a existé aussi.
Aujourd'hui, ça devient une réforme risquée dans le contexte actuel. Ça devient une réforme risquée quand on voit que même la CFDT est remontée contre.
Quand notre concert dit qu'il aurait fallu un peu plus de pédagogie.
Moi, je me souviens d'un débat public fourni à l'époque, il y a un an. C'était il y a même plus d'un an.
Expliquer, réexpliquer pourquoi, grâce à ça, on arrivera à 7% de taux de chômage, puisque c'est l'objectif d'Emmanuel Macron à la fin du quinquennat. Il faut réexpliquer. Alors, peut-être qu'il y a eu l'explication, mais là, on y est. Il n'est jamais inutile, au moment où la réforme entre en vigueur, où elle est aussi radicale, de donner une autre explication de texte. Oui. Voilà, recommencer, répéter, marteler. On le sait très bien qu'en communication, un message passe quand il est martelé.
On reste ensemble, les grandes voix. On va continuer de discuter dans un instant et on parlera d'Emmanuel Macron. On le voit beaucoup, on l'entend beaucoup en ce moment. Pourquoi est-ce que sa stratégie de communication a changé? On se pose la question dans une minute.
Et pour poser vos questions aux grandes voix, c'est simple, c'est le 39-21 qu'il faut composer dès maintenant. Ou vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs. Sébastien, vous êtes entouré des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Laetitia Krupa, spécialiste de communication politique, Charles Villeneuve et David Doucan, chef du service politique d'Europe 1. Et toutes vos réactions en direct au 39-21.
Et on va parler politique, on va parler de la communication présidentielle. En ce moment, Emmanuel Macron, on le voit beaucoup. On l'a vu hier soir en bain de foule à son arrivée à Honfleur pour un séjour qui est censé être privé. La veille, on l'a vu en bain de foule à Rouen pendant deux bonnes heures. On a le sentiment qu'on le voit beaucoup, qu'il parle beaucoup aussi, radio, télé, pendant ses voyages, au retour, presse écrite. Est-ce qu'il parle trop?
Mais écoutez, sincèrement, qu'est-ce qu'on a dit à un moment donné? Rappelons-nous au début, on l'a trouvé quand même, les Français l'ont crédité d'avoir resacralisé la fonction, non sans être brillant, d'ailleurs, indéniablement. Il a restauré la parole rare, la parole mitterrandienne. Aujourd'hui, on dit Jupiter est devenu commun.
Bon, bah, oui.
Il parle trop. Il ose trop, il dit trop de choses, on ne comprend plus, c'est un flot, il est partout. Bon, qui a dit qu'il ne parlait pas assez? D'ailleurs, tout à l'heure, aussi bien toi que David, il faudrait quand même un peu plus avoir de pédagogie. Il faudrait quand même un peu plus rentrer dans le vif du sujet, qu'on comprenne un peu plus. Alors, évidemment qu'il court le risque d'être broyé par le système médiatique. Parce que nous sommes dans l'information instantanée, parce qu'aujourd'hui, il y a un flot de nouvelles permanentes. On dit nouvelles,
des news. On peut dire en français aussi, ça marche.
Nouvelles, c'est beaucoup plus élégant.
Merci.
Vous avez raison, Charles.
Donc, c'est le système de l'info, de toute façon, qui veut ça. Il y a une exigence du public, des Français aussi. On l'a vu à Rouen, avec cette communication tronçonnée des ministres. On s'est dit, on ne comprend rien. Finalement, le public à Rouen, celui qui avait.
Justement, Rouen,
subi
est-ce qu'il n'y a pas allé trop tard un mois après? Bon, c'est ça la question qu'on peut se poser aussi.
Non, mais on a envoyé le Premier ministre qui a un tout petit peu calmé les choses, qui est rentré dans le détail. Il se débrouille pas mal quand même, le Premier ministre aussi. Bon, maintenant, lui est passé par Rouen aussi, parce qu'il a bien vu que tout le monde n'était pas très convaincu, qu'il y avait toujours une attente et tout ça.
C'est pas le même effet. Édouard Philippe, Emmanuel Macron, on n'est pas du tout dans le même effet.
Justement, sur Rouen, il y a Frédéric qui nous a appelé et qui nous dit que le problème, c'est que ses déplacements et sorties, je le cite, sont à contre-courant. À Rouen, il fallait y aller beaucoup plus tôt et il y arrive beaucoup trop tard.
Mais attendez, moi, je ne dis pas que c'était bien ou c'était pas bien, c'est pas ce que je dis. Je dis de toute façon que tout le monde attendait. Bon, il y est allé un peu trop tard. Bon, maintenant, il est à Honfleur.
Est-ce qu'il y est allé
à Honfleur?
C'est parce que c'était sur la route de Honfleur. Hein. Oui, c'est ce qu'ils ont expliqué à l'Élysée. C'est incroyable.
Non, mais
cette
je veux dire que,
non, ils ont pas dit
si
ça.
Vous voulez, on est rentré dans un temps où il y a un accélérateur de particules qui frappe le système médiatique. Et aujourd'hui, bon ben là, il ne faut pas qu'on se plaigne, puisqu'on parle, on le critique même. Hein, c'est vrai.
Non, soyons très clairs. David Doucan, il y a une intention à l'Élysée, il y a quelque chose qui a changé dans la stratégie de communication présidentielle?
Non, absolument pas. La stratégie de communication présidentielle d'Emmanuel Macron, elle est fixée par Emmanuel Macron depuis le début. Je peux vous dire, c'était comme ça à Bercy en 2015-2016. C'était comme ça pendant la campagne présidentielle. C'était comme ça depuis le début du quinquennat. Rien n'a changé. Je vais vous dire très franchement, il parle trop, il parle pas assez. Je m'en fiche. Que dit-il? Voilà. Que dit-il? Que dit-il aux Français? Quelles sont les propositions? Quel est le fond de son action? Quand il donne une interview à Valeurs Actuelles, excusez-moi, mais savoir s'il fallait parler à Valeurs Actuelles ou pas parler à Valeurs Actuelles, ça m'est entièrement égal. Dans cet entretien à ce magazine, il donne des informations. Il effectue des annonces qui passent totalement inaperçues parce que tout le monde est en train de se dire « Oh, quel scandale, il a parlé à Valeurs Actuelles !» Mais franchement, on est à côté de la plaque.
Il annonce, par exemple, qu'il faut mettre en place un délai de carence pour l'obtention de la PUMa, la prestation universelle maladie, dont bénéficient tous les demandeurs d'asile aujourd'hui. Lorsqu'ils arrivent sur le territoire français, vous déposez votre demande d'asile, vous bénéficiez au temps T, au bout d'une seconde, vous bénéficiez de cette prestation médicale universelle, maladie universelle. Donc, le président, il dit, ça, c'est un problème, parce que ça crée un dévoiement du système de l'asile. Il faut qu'on mette en place un délai de carence de 3 mois pour ces demandeurs. Ça s'appelle une annonce, enfin. Depuis quelques semaines, le débat sur l'immigration est au cœur de l'actualité. Là, le président de la République dit clairement l'un des moyens qu'il souhaite utiliser pour rendre, et ce sont ses mots, la France moins attractive. Donc, franchement...
On parlait plus de la quantité. Il y a une stratégie aussi de démultiplier les canaux. Écoutez, différents Sébastien, médias, différents journaux, différentes radios, différentes chaînes d'infos.
Sébastien, la parole rare, c'est terminé. Voilà. Donc c'est fini.
Parce
c'est
que
fini.
C'était la stratégie
oui,
du départ.
Depuis le quinquennat.
C'est fini, ça. C'est
pas
terminé.
La peine de faire comme si on allait revenir à un mitterrandien.
Non, mais ça, je suis d'accord avec vous, théoriquement. Mais pratiquement, Emmanuel Macron a un problème avec les médias depuis l'entre-deux-tours de la présidentielle. Il y a une défiance d'Emmanuel Macron vis-à-vis des journalistes. Il y a un problème d'Emmanuel Macron avec ce timing imposé par les médias. C'est pas vrai.
C'est pas vrai,
Charles, parce que il parle beaucoup. Il fait une semaine de séquence laïcité parce qu'il refuse de parler tout de suite parce que les médias et la polémique s'imposent à lui.
C'était vrai pendant la campagne
électorale. Regardez pour la laïcité. De prendre la parole tout de suite. Il a attendu parce qu'il a dit que ce sera mon timing. Et ensuite, il nous fait 5, 6, 7 sorties là-dessus.
Je ne sais pas quoi dire.
C'est bon, on a compris.
C'est parce qu'il n'a pas pris le sujet à pleine main.
Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire.
C'est ça la réalité.
Pourquoi il n'a pas dit
tout de suite ? D'abord, c'est un sujet extrêmement complexe. Moi, je lui reproche qu'une seule chose sur le plan de l'immigration. C'est de ne pas dire d'abord que tous les jeunes, justement, fils d'émigrés sont d'abord des Français. Sont français d'abord. Oui, ils sont français. Ils sont peut-être musulmans, mais ils sont d'abord français. Il faut les traiter comme des Français. C'est ça que je lui reproche. Et c'est ça qui touche la plupart de ces jeunes gens. J'en connais beaucoup, imaginez-vous. Donc c'est vrai, j'en connais beaucoup. Et je trouve que c'est de plus en plus, il y a une tendance de libéraux sociaux chez ces jeunes gens, notamment tous ceux qui travaillent dans les taxis, les Uber et compagnie, etc. Et donc c'est comme ça qu'il faut les traiter, c'est comme ça qu'il faut les prendre. Et il n'a pas encore pris la mesure du problème de fond qu'est cette affaire-là.
Et pourtant, il a parlé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois.
Mais il n'a pas fait
de
discours.
Vous parliez de timing. Voilà. Est-ce qu'il
a toujours fait discours ?
Pas encore, à la mi-novembre, il devrait prendre la parole.
Est-ce qu'il a toujours la maîtrise de son timing, justement ? On disait le maître des horloges au début. Est-ce qu'il est toujours le maître des horloges ou est-ce qu'il se fait imposer des débats ? Sur le voile, par exemple, c'est pas venu de lui.
Absolument.
Non, il est percuté en permanence par l'actualité. Là, depuis, en réalité, l'affaire Benalla et la démission de Nicolas Hulot, la démission de Gérard Collomb, je peux vous donner 15 exemples. De grandes gênes politiques qu'il n'a pas décidé et il a été obligé de faire avec.
C'est la malédiction des présidents, ils se retrouvent tous à subir au bout d'un moment.
Mais c'est inévitable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, la Ve République, avec le quinquennat, fait que tout revient au président de la République.
Voilà. Oui.
Donc c'est pas la peine de faire semblant.
C'est une pyramide qui repose sur son
d'autant
sommet.
D'autant qu'il s'est pas entouré de têtes d'affiche. On peut pas dire qu'il ait des relais.
Édouard Philippe prend de l'épaisseur.
Au départ, il était complètement inconnu.
Aujourd'hui, Édouard Philippe est vraiment dans son rôle de Premier ministre. On a le sentiment, quand on l'a vu répondre notamment à l'Assemblée nationale, quand il a fait le discours sur l'immigration, quand il y a eu cet échange avec Jean-Luc Mélenchon cette semaine, là, bon, il a vraiment endossé le costume. Aujourd'hui, son taux de notoriété est un taux de notoriété de Premier ministre, qui n'était pas le cas au début du quinquennat, effectivement, où nos concitoyens ne le connaissaient pas. Mais le problème, si vous voulez, et je reviens parce que Sébastien, vous nous interrogiez sur Rouen, mais vous pouvez envoyer 15 ministres, c'est quand même ça. C'est moi, personnellement, et Charles, je ne sais pas si c'est ton cas, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire des ministres qui n'impriment pas. Ils parlent
du tout.
Oui, parce c'est que comme s'il n'avait rien dit.
Et le Premier ministre
aussi,
a fait
David.
Le déplacement également.
Oui,
hein,
c'était une communication tronçonnée.
Oui.
N'était pas relié. Il n'y avait pas, si vous voulez, un discours commun.
Il devrait prendre exemple sur la droite pour le coup, parce que la droite est très très bonne sur les éléments de langage et sur justement des discours cohérents, unitaires. Et ça,
Je crois qu'il y a eu un retard à l'allumage sur Rouen qui a fait que. Il y a eu ce retard aussi à l'allumage sur Rouen qui a fait que le discours a évolué. Est-ce que là, on est dans un contexte électoral, c'est quand même lié aussi. Est-ce que le président a besoin de plus exister aujourd'hui? On est dans une campagne qui s'ouvre. Terminons en quelques secondes.
Vous faites référence aux municipales.
Bien sûr.
Ah, mais je crois qu'il les enjambe, les municipales, bah, Emmanuel Macron. C'est pas son sujet.
Il n'est pas en campagne aujourd'hui. C'est pas pour ça qu'on le voit.
Il a compris qu'il gagnerait pas les grandes villes.
Oui. Dans un premier temps, il a essayé de toute façon de rassembler, de constituer. Il y a Génération Terrain qui regroupe un certain nombre de maires. Plutôt de droite, républicains, etc., qui ont dialogué, qui continuent de dialoguer, notamment Arnaud Péricard, Carl Olive, le maire de Poissy, etc., qui continuent de dialoguer avec lui. Mais en réalité, il est bloqué par la République En Marche elle-même. Les comités locaux qui veulent présenter des candidats, ou alors qui veulent imposer à ces maires de droite qui accepteraient de composer, si vous voulez, une autre liste, des postes comme premier adjoint des finances, des postes clés, etc., qui y sont. Alors moi, je suis assez d'accord avec le terme de David Doucan. Il a enjambé les municipales.
Pour
du moins, il donne cette apparence. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait enjambé, vraiment.
Et ben, on parlera des municipales une autre fois parce qu'on n'a plus le temps. Merci beaucoup, les grandes voix, d'être venus ce soir. Charles Villeneuve, Laetitia Krupa, David Doucan. Merci, bonne soirée. Europe 1.